Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Éric Coquerel va-t-il devenir un contrôleur fiscal ? C'est ce que tout le monde redoute après son élection à la tête de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. On va en dire un mot. Puis Philippe Magnin nous expliquera qu'en politique aussi, on a un problème d'offre et pas un problème de demande. Résultat, la demande se tourne vers les extrêmes. 6% d'inflation pratiquement en France, c'est le dernier chiffre. Alors est-ce qu'il faut souhaiter une bonne récession, comme on dit, pour tuer l'inflation ? Il semblerait quand même que ce soit presque plus une option, mais une certitude dans les choix de politique monétaire opérés par la Réserve fédérale américaine actuellement aux États-Unis. Injustement, tiens, cette cécité des banquiers centraux confessée à Sintra au Portugal sur la réalité de l'inflation, est-ce que ça relève de l'imprévu ou alors de la faute professionnelle ? CMA CGM après Total fait à son tour un geste commercial pour tenter de tuer le débat sur la taxation des super profits. Une remise de 500 euros par conteneur de 40 pieds est accordée. Emmanuel Le Chypre s'est livré à une petite estimation sur une basket à 50 euros. Si la ristourne est répercutée par Decathlon, par exemple, ça fait 50 centimes d'économie. Et puis bon, j'ai d'autres sujets. Il y a notamment la population active et les perspectives de l'INSEE. Ou encore tous ces étudiants de grandes écoles qui décident que le système ne leur va pas. Ils font un bras d'honneur à leur diplôme dans une sorte de dérive un peu gaucho-écolo-zadiste. Philippe Manière, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Président de Vaisselis Communication, vous avez publié Le Pangolin et l'ISF, comment le monde d'après nous rend tous fous aux éditions de l'Observatoire. Mathieu Plante, bonjour.
Bonjour.
Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, Jean-Marc Vittori, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Éditorialiste aux Échos. Qui commence, Éric ? Est-ce que Éric Coquerel, est-ce que ça vous inquiète ? Jean-Marc, pardon.
Alors, Éric Coquerel. Il n'a pas des compétences financières et économiques reconnues.
Il a 50 commissions déjà derrière lui,
oui.
Des finances.
Hein. Oui, bon. Mais bon, ça ne suffit pas à faire.
D'accord.
Voilà. Si vous regardez les présidents précédents des commissions, on n'a pas les mêmes calibres. Alors on peut dire que ce n'est pas important, la démocratie, c'est qu'il y a de la nouveauté, c'est qu'il y a la représentation des nouvelles forces qui montent en puissance, qui sont montées en puissance sur la législative. Ok, on peut dire ça. Mais ça, c'est du principe. Quand on se plonge dans la mécanique parlementaire et dans la mécanique budgétaire, qui sont deux mécaniques extrêmement complexes, si vous ne maîtrisez pas un tant soit peu les rouages, c'est même très très compliqué. Voilà. On peut dire aussi. Toutes les raisons qui ont amené à cette élection sont des raisons qui sont bancales. Hein, on évoque une longue tradition républicaine, comme quoi les députés de la majorité ne votent pas à cette élection. Longue tradition républicaine qui s'est appliquée à trois reprises.
Bah oui, c'est ça.
2010, 2012,
c'est un usage en plus. Hein.
Voilà,
c'est un usage et pas un règlement.
Hein. C'est un usage. Il y avait deux autres usages dont personne ne parle. La première, c'était que le président élu à la tête de la Commission des Finances était quelqu'un de plutôt modéré. Hein, si vous regardez, donc là encore, si vous prenez les trois précédents, hein, vous avez Jérôme Cahuzac,
Gilles Carrez
et Éric Woerth. Hein, donc cette personnalité modérée, à tel point que le dernier a fini par changer de camp en cours de mandat. Donc une personnalité modérée, là, c'est pas le cas. Et l'autre point, c'est que c'est une personne hautement compétente sur le sujet. Alors, on peut dire Jérôme Cahuzac était trop compétent sur les questions fiscales. On peut ensuite avoir ce débat-là. Mais c'était des gens qui avaient une réelle compétence sur le domaine dont ils présidaient la commission. Et là, je suis désolé, c'est pas le cas. Donc, au nom d'une tradition républicaine longue et ancestrale qui s'est appliquée à trois reprises, on ne respecte pas deux autres longues traditions républicaines qui sont appliquées à trois reprises. Et je pense que ça va encore compliquer le jeu de l'Assemblée. Alors, juste si vous me laissez 30 secondes de plus, je vais basculer de l'autre côté. Je vais dire, et si c'était finalement pas inutile ? On sait qu'en matière de fiscalité, il y a des arrangements qui se font, notamment à Bercy, de manière pas très claire, de manière opaque, pas forcément toujours au nom de l'intérêt général, et qu'il y a sans doute des choses à faire progresser là-dessus, et qu'un président de la Commission des Finances qui a ce souci-là, ça peut peut-être faire changer les choses, à condition que ça soit bien fait, à condition qu'on tombe pas dans l'inquisition et dans la chasse aux sorcières, mais il y a aussi, en matière fiscale et en matière de fiscalité des entreprises, des choses à améliorer.
C'est vrai que quelquefois, il y a des tours de passe-passe tout à fait légaux, pas forcément d'ailleurs évident à repérer, et ça arrive très régulièrement.
Non, mais la vraie question derrière, c'est est-ce que c'est au nom de l'intérêt général ?
Oui, mais je comprends. Mais...
Voilà. Et parfois, il est vraisemblable que ça ne soit pas le cas.
Un mot à ajouter sur Éric Coquerel, Philippe Manière ?
Non, mais pas grand-chose à ajouter,
bon, parce que
Jean-Marc a dit l'essentiel. Alors, si vous voulez, il faut quand même regarder les choses avec calme du point de vue de la légitimité, parce que maintenant, on met en cause la légitimité de tout le monde tout le temps. Macron serait pas légitime parce qu'il y a des gens qui sont abstenus, Coquerel, etc. Bon, il est infiniment légitime comme député. Moi, je suis absolument désolé de voir que la ville où je vis porte à l'Assemblée nationale Sandrine Rousseau ou Émeric Caron, mais voilà, c'est le jeu de la démocratie. Donc, il est très légitime, il est complètement normal qu'il soit à l'Assemblée. Ses idées peuvent être les vôtres, pas les vôtres, mais elles ont le droit d'être... Donc tout ça, il ne faut quand même pas oublier que c'est un député de la République, il a toute légitimité, et s'il est désigné par ses pairs, et ben voilà, il a toute légitimité à être au poste où il est. Après, il y a effectivement le problème de la compétence qu'on a évoqué il y a un instant. On y reviendra d'ailleurs sans doute, je pense, quand on parlera des banques centrales, parce que moi, c'est un des vrais sujets qui me préoccupe beaucoup. C'est-à-dire que plus les sujets sont techniques, plus dans cette espèce de vague de démocratisme dans laquelle on se trouve aujourd'hui, on porte au pouvoir des gens qui sont absolument pas qualifiés pour occuper le poste. Juste sur Coquerel, deux choses. Il est légitime, il est respectable. Il a eu 5 ans de présidence de la commission, pas de présidence, mais de participation à la
présence.
À la commission.
Présence, j'ai pas vérifié. En tout cas, il était membre de la commission.
Oui. Bon. D'appartenance.
Moi, il y a quand même deux choses dans ses déclarations au moment de son élection qui sont tout de même un peu troublantes, me semble-t-il. Il a dit, de toute façon, quelqu'un qui ne fraude pas n'a pas d'inquiétude à avoir. Ça, c'est assez typiquement ce qu'on dit dans des régimes totalitaires. C'est-à-dire, c'est pas grave si vous faites l'objet d'écoute, puisque de toute façon, si vous êtes une personne honnête, vous n'aurez pas de difficulté. Donc, moi, je trouve que c'est pas de bonne manière de dire, pas de bonne méthode de dire si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez pas à avoir peur, parce que ça laisse à penser qu'on s'autorise tous les contrôles possibles. C'est sûr que ça sent pas très bon. Puis il a dit aussi quelque chose. Il a dit dans le poste où je suis, je ferai valoir mes idées. Je reviens sur ce que disait Jean-Marc tout à l'heure. Non, enfin, bien sûr, ces idées sont audibles. Il est normal qu'il essaye de les faire avancer. Mais le président de la Commission des Finances n'est pas là pour faire du militantisme. Donc ça, je trouve que c'est quand même relativement préoccupant. Puis il y a quand même ce que ça dit. Et c'est que le début, je sais pas combien de temps ça durera jusqu'à la dissolution, mais c'est ce que ça dit des effets pervers de la mécanique à l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y avait plein d'autres solutions bien préférables sur le papier. Charles de Courson, Valérie Rabault, etc., qui sont des gens éminemment respectables et respectés bien au-delà de leurs camps respectifs, j'allais dire. Eh bien, ils ont été éliminés parce que on veut pas voter avec un tel, on veut pas être soupçonné de, on veut pas faire de peine. Moi, je pense que Valérie Rabault aurait dû maintenir sa candidature. Je pense que naturellement, le PS, qui est dans une phase de veulerie épouvantable, a eu tort de pas dire non, on a une bonne candidate compétente. Il se trouve d'ailleurs que c'est une femme, ce qui ne gâche rien. On la maintient. Et donc, à l'arrivée, on se trouve avec une solution qui n'est pas la bonne, même s'il faudra juger sur pièce, pour des raisons en fait, étaient évitables. C'est ça qui est un peu regrettable. Et bon, encore une fois, le plus probable, c'est que ce soit pas une assemblée qui dure très longtemps. Ouais, c'est quand même pas le meilleur casting possible que ce Coquerel dans ce poste-là.
Mathieu Plame, un mot pour
vous. Non, parce que c'est vrai que c'est quand même un rôle important, hein, cette présidence de la Commission des Finances à l'Assemblée. C'est quand même, j'allais dire, celle qui a le plus de pouvoir. Je crois qu'il y a 70 membres. Donc c'est aussi voir comment il va diriger cette commission.
Il a un rapporteur général qui a quasiment les mêmes pouvoirs que lui, qui est issu de Renaissance, le député du Gers, Jean-René Cazeneuve.
Hein. Oui, exactement. Non, mais c'est vrai que ça va être assez intéressant parce que en règle générale, c'est un peu aussi les gardiens du temple. Hein,
oui.
Au terme de finances, et là, on n'est pas dans la situation.
L'efficacité.
C'était plutôt dans l'autre sens. C'était justement parce que les budgets de l'État, les trajectoires budgétaires n'étaient pas forcément respectées, parce que il y avait soit trop de dépenses, soit trop de baisses d'impôts. Donc c'est vrai que là, on est un peu dans la situation inverse où effectivement...
Il va faire les franchères, oui.
Voilà. Et c'est là où c'est intéressant. Alors que le rôle de la Commission des Finances était plutôt un peu de vérifier que...
Une vigie,
etc. sur ces questions de cadrage budgétaire, de trajectoire macroéconomique, au-delà des questions même fiscales. Donc on va voir comment ça change complètement, en fait, les relations. Hein.
Si vous me permettez, un mot là-dessus, en mettant en perspective un peu plus longue. Le Parlement, il a été créé pour ça.
Oui,
ça.
Oui.
Hein, il a rappeler, été, oui. Hein, si vous reprenez les origines de la démocratie parlementaire, en particulier
1215,
en Angleterre,
la Charte, voilà, voilà, c'est l'idée,
en particulier en Angleterre en 1215 à la fin du XVIIe siècle, et en France quand le but c'était de contrôler les finances du roi.
Hein,
voilà, juste, et donc là, on va pas tout à fait dans ce sens-là.
Non, c'était ça.
Hein. On parle de tradition, donc parlons d'une autre tradition. Voilà. La tradition budgétaire, c'est de contrôler les finances, contrôler les finances de l'exécutif.
Le budget, c'est l'essence du Parlement et c'est le moment cardinal de la. D'ailleurs, c'est bien pour ça que ce texte-là peut, quoi qu'il arrive, être passé en 49.3. Vous écrivez dans les colonnes de Marianne, Philippe Manière, je trouve que la formule est bonne, en politique, c'est comme en économie, on a un problème d'offre et pas un problème de demande. J'ai trouvé ça.
Oui, alors, merci d'avoir apprécié. J'ai été frappé parce qu'on a ce débat en permanence, alors j'allais dire entre économistes et entre amateurs économistes comme moi, sur est-ce que la France ou le monde ont un problème d'offre. Bon, moi, je pense qu'en France, à mon avis, il n'y a pas de doute, c'est un problème d'offre qu'on a principalement. Or, on fait comme si on avait un problème de demande et ça fait 25 ans qu'on essaye de régler un problème qu'on n'a pas. Et moi, je trouve que ça m'a frappé lors de ces deux tours de l'élection législative de voir, maintenant on en parle moins, on vient de parler des équilibres parlementaires qui sont très incertains, donc on est un peu obsédé par ça, mais le truc vraiment le plus important de ce scrutin, c'est une énorme abstention et c'est un vote extrême qui fait quand même 40% des sièges, donc c'est quand même ça le plus important à mes yeux. Alors pourquoi ? Alors, il y a des tas d'explications, on vous dit les réseaux sociaux, oui d'accord, mais enfin au Danemark et au Royaume-Uni aussi il y a des réseaux sociaux, les types votent pas aux extrêmes et ils vont voter quand des élections. Bon. Donc il y a quand même des, et puis il y a plein d'autres raisons qu'on invoque et qui sont pas mauvaises, mais il y a tout de même un problème spécifiquement français. Moi ce que je crois c'est quand même beaucoup d'orphelins dans ce pays du point de vue électoral, c'est-à-dire que quand vous réfléchissez quand même à l'histoire de la pensée politique et à la tradition politique européenne, il y avait quand même deux grandes familles de pensée qui, en gros, alternaient, se tiraient la bourre, mais n'étaient pas complètement radicalement hostiles l'une à l'autre, même s'il y avait une alternance légitime. C'est en gros la famille chrétienne-démocrate-libérale, et puis la famille sociale-démocrate-responsable. Hein. J'allais dire, d'un côté, vous avez l'héritage de ce qu'on a pu appeler l'UDF, où vous aviez à la fois un Madelin et un Jacques Barrou, un Méhaignerie. C'est un peu la CDU allemande, j'allais dire. Et puis de l'autre côté, vous avez le socialisme responsable.
Le SPD,
moi, où j'ai vu des personnalités absolument remarquable dans ma première carrière de journaliste, les Michel Rocard, les Pierre Bérégovoy. Pierre Bérégovoy, on ne le dit pas assez, qui était un adulateur absolu de la concurrence. Quand il faisait Paris Innover, il relevait le prix de l'essence dans les stations pour vérifier s'il y avait de la concurrence. Donc vous voyez, c'était pas un socialiste planificateur, c'est un socialiste qui croyait à la création de valeur par la mise en concurrence. Donc, ces deux familles de pensée, aujourd'hui, elles ne pensent plus. Elles sont quasiment éliminées. Et donc, si vous êtes plutôt, ce qui est mon cas, mais c'est le cas, je crois, de beaucoup de Français, donc peu importe que ce soit le mien ou pas, mais si vous êtes plutôt porté à penser que c'est l'une de ces deux familles vous séduit, d'ailleurs pas forcément la même au fil du temps, bah, aujourd'hui, où elle est l'offre ? Elle est où l'offre qui correspond à ça ? Pour qui vous votez quand vous allez le dimanche dans votre bureau de vote ? Il n'y a plus rien. Alors, c'est d'abord l'effet Macron, hein, qui est absolument diabolique à mes yeux. C'est-à-dire qu'en 10 ans, je prends tous les hommes de bonne volonté, bah, vous captez à vous tous les gens qui sont plus ou moins à la gauche de la droite et à la droite de la gauche. Il reste quoi ? Devinez quoi ? Ceux qui sont à la gauche de la gauche ou à la droite de la droite, c'est-à-dire les extrêmes. Donc c'est une catastrophe pour le paysage politique. Mais au-delà, il y a quand même une énorme paresse intellectuelle d'une grande partie de la classe politique. Où sont les héritiers intellectuels de Madelin, de Barrot, de Méhaignerie, de Rocard et de Bérégovoy ? Où sont-ils ? Alors, on a cité quelques noms. On peut dire Cazeneuve, oui, Lisnard, oui, mais voyez, on cherche des gens et généralement ils n'ont pas de troupe, en tout cas à ce stade. Donc, moi, je disais simplement dans ce papier, faut pas s'étonner que les gens n'aillent pas voter et on peut pas faire grief aux gens de rester chez eux si ils n'ont pas de bulletin de vote possible pour exprimer des idées qui sont quand même, à mon avis, respectables, profondément ancrées et en résonance parfaite avec la civilisation européenne. Si vous n'avez rien. Si vous n'avez personne pour qui voter, bah après tout, restez à la maison. Ou alors, faire le numéro de claquette, on renverse la table et on va voter pour les extrêmes, c'est pas incompréhensible. Donc n'engueulons pas les électeurs qui n'ont pas de bulletin de vote qui leur convienne. Non mais je veux dire, au bout d'un moment...
Il y a un truc, allez-y.
Oui, bien sûr. D'abord, la paresse.
On avance après. Hein.
La paresse, c'est saisissant.
C'est ça, terrible.
Philippe faisait allusion à son ancien métier. Moi, je peux faire référence à mon métier actuel, qui est éditorialiste. Éditorialiste, c'est suivre les idées.
C'est ça.
Et animer le débat d'idées en écoutant et en faisant parler les uns et les autres. Et du côté politique, je peux vous assurer que depuis 15 ans là-dessus, je suis en chômage technique.
Hein, c'est terrible.
Je suis en chômage technique. Et quand j'en parle à gauche comme à droite, ils le reconnaissent. Off. Mais évidemment, dans le micro, ils disent « Non, on a fait tout un programme, tout ça, etc. » Et pour moi, la victoire de Macron il y a 5 ans s'explique par le fait qu'il avait eu le temps de réfléchir à un programme à partir du moment où il avait été rapporteur de la commission Attali, donc 10 ans plus tôt, ce qui l'avait amené à avoir une vision, une réflexion globale qui lui a permis d'avoir quelque chose qui ressemblait à un programme il y a 5 ans.
Quelque chose qui ressemblait me paraît plus conforme à la réalité qu'un programme.
Et qui a fait une très nette différence par rapport à tous les autres. Donc ça, c'est la première chose. Je crois qu'il y a une absence de débat et j'ai eu des témoignages des deux côtés confondants là-dessus. Il y a un autre point qui est même français et qui est vraiment une spécificité française qu'on n'a pas ailleurs et qui explique aussi, je pense, et cette paresse et ce problème d'offre majeur, c'est le système de vote. Le système majoritaire uninominal qui force à des affrontements en permanence. Et on le voit de manière absolument saisissante aujourd'hui à l'Assemblée, où on a des députés qui ont été élus. Après s'être affrontés au premier tour, au deuxième tour, ils ont quelque chose de... L'opposition est très très violente. Et donc, faire une coalition dans cet esprit.
Ça, c'est une autre question.
Oui, mais c'est lié.
Ça n'empêche pas de penser. Hein.
Ça n'empêche pas. Ça force. Enfin,
avec le même mode de scrutin, il y a 25 ou 30 ans, il y avait des idées à gauche et à droite.
Oui, mais dans les autres pays aussi. Et aujourd'hui, franchement, je crois qu'il y a une vraie différence là-dessus. Aujourd'hui, on a 10 groupes à l'Assemblée nationale. Ouais, je rappelle qu'à mandature précédente, on en avait 7, avant 6, avant 5, avant 4. C'est aussi une autre traduction de ce problème d'offre.
6% presque d'inflation, Mathieu Plat. Bah, vous vouliez vous dire.
Bah oui. Ah bon, c'est vrai que c'est assez français. Le paysage politique est extrêmement fragmenté. On a eu des épisodes quand même aux États-Unis, au Royaume-Uni avec le Brexit ou Trump qui montrent quand même que il y a aussi un événement un peu plus global, hein, qui est lié aussi à un choc macroéconomique depuis 2008 avec une crise quand même qui est majeure, hein, et donc il y a des questions essentielles qui reviennent assez rapidement sur la question des finances publiques, du pouvoir d'achat qu'on retrouve. Et je crois que la difficulté aussi, c'est de tenir le bateau, le cap dans cette situation économique assez difficile. Or, effectivement, ceux qui ne sont pas au pouvoir, il y a une forme de surenchère, hein, aussi, on voit dans les mesures, hein, budgétaires, fiscales. La question, c'est que aujourd'hui, ça crante pas dans le débat, ou en tout cas, ça imprègne pas le débat quand vous avez des mesures qui sont, entre guillemets, raisonnables. C'est-à-dire qu'on attend vraiment un changement radical des choses. Et effectivement, la question, c'est est-ce que c'est applicable ou pas ? Tant que vous ne l'avez pas appliqué, vous pouvez dire oui, c'est possible de le faire. Et donc, vous êtes toujours en train d'essayer de dire bon, non, oui, effectivement, non, on ne peut pas le faire. Et d'autres vous disent si, on peut le faire. Donc, vous êtes dans ce débat-là. Aujourd'hui, la pensée, j'allais dire, modérée ou raisonnable, en fait, ne peut plus imprégner parce que vous voyez que vous arrivez aux limites de ce qui est à peu près faisable. Donc, c'est vrai que ce qu'attend une partie de la population, c'est vraiment un changement radical. Et la question, c'est est-ce que ce changement radical est applicable ou pas une fois que vous êtes au pouvoir ? Enfin, c'est vraiment la question. Absolument, il n'a pas été mis en place réellement.
En tout cas, c'est que si la réponse est non, on ne le saura qu'après qu'ils ont échoué.
Exactement.
Et ça aura coûté très cher.
Donc c'est le risque, il est là. C'est-à-dire que c'est effectivement de passer dans la responsabilité et de voir si ça fonctionne ou pas.
Mais on revient.
On revient au
travail. Hein. Oui. Le parti politique qui avait le plus travaillé pour la présidentielle, c'est LFI.
Oui, et d'ailleurs, c'est LFI.
Et sans nul doute, avec des. Alors, on peut dire, il y a 90%, ils auraient pu écrire la même chose avec 40%, et les 10% restants,
ils arrivent avec un programme assez.
Mais c'est les seuls qui ont fait un programme.
Et il y avait un corpus. Qui est contestable sur les évaluations, etc. Mais en tout cas, il y a un programme.
Il y avait un programme qui avait été.
Eux vont dire, c'est applicable, c'est réaliste, etc.
Qui avait été bâti sur un travail qui a duré des années, etc.
Mais LR, LPS.
Rien.
Et France s'est fait un plat depuis 25 ans.
Ils n'arrivent plus à se positionner, en fait. Je pense sur la question économique, ils ont du mal à trouver un angle d'attaque, en fait.
Mathieu, on a 3 minutes avant de marquer une pause. 6% pratiquement d'inflation, là, aujourd'hui. Ça va trop vite, trop fort. La Banque de France nous dit 7% en fait, septembre. On parle de la France. Hein. Les États-Unis, on était à plus de 8. Est-ce que.
C'est en Espagne.
Pardon ? Oui, ils disent ça va. Alors, est-ce que ça va trop vite, trop fort ? Et après, la question est souhaiter une récession pour que ça s'arrête, quoi.
Bah le problème, c'est qu'il ne faut pas souhaiter. C'est la conséquence que ça peut avoir. Hein. C'est la récession. Alors effectivement, justement, ce serait un atterrissage assez brutal hein, qu'il y ait ce choc inflationniste. Il faut voir que effectivement, nous près de 6%, mais on s'en sort plutôt bien, en réalité, par rapport à nos voisins européens. C'est une des rares fois où justement, on a plutôt une position relative qui est favorable par rapport à une moyenne européenne qui est plutôt autour de 8%, et notamment parce qu'il y a le bouclier tarifaire. Il faut savoir
toutes les mesures.
La France a aujourd'hui le taux d'inflation le plus faible de la zone euro.
Exactement.
Ce qui historiquement.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'en termes de compétitivité relative, c'est quand même pas mal. Hein. C'est-à-dire que du coup, on gagne en part de marché. C'est la première fois en compétitivité prix. Parce que si on gagne 3 ou 4 points par rapport à nos principaux partenaires commerciaux par an sur les prix relatifs, c'est plutôt assez favorable en réalité dans notre position commerciale.
Là où c'est des secteurs exposés, parce que dans les bistrots parisiens, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de concurrence avec les bistrots berlinois.
Oui, mais c'est vrai aussi dans les salaires, parce que l'effet de second tour, du coup, est moindre. Et à partir du moment où vous avez des prix qui augmentent de 6%, vous êtes moins obligé d'augmenter les salaires pour compenser. Donc, sur les effets de compétitivité-prix, et donc c'est vrai que bloquer les prix, en tout cas en partie de l'énergie, ça a été finalement assez efficace parce que ça évite des effets de second tour qui seraient plus forts. Si vous n'aviez pas bloqué, par exemple, ce que font les autres pays, c'est qu'ils envoient des chèques, en gros. Donc, vous avez à la fois l'inflation et en plus, vous donnez des prestations ou des revalorisations de salaire. Donc, cette inflation, elle pose beaucoup de problèmes. Premièrement, parce que c'est une inflation quand même qui est beaucoup importée. Je rappelle que même sur les 6%, on en a pratiquement la moitié qui sont liés encore à l'énergie.
Bien sûr.
Donc, il y a un choc macro. Ça veut dire que vous payez surtout plus cher votre énergie. Donc, ça veut dire que c'est un choc sur le pouvoir d'achat et sur les entreprises et leurs marges, en gros, premièrement. Et puis, il est extrêmement inégalitaire, quoi. C'est-à-dire que c'est là où ça va créer des fragilités. C'est que nous, on avait montré que 10% de la population a à peu près 2% d'inflation, et 10% est à plus de 8%. C'est-à-dire, en fonction de votre lieu de vie géographique, est-ce que vous avez une voiture, pas une voiture, est-ce que vous vivez dans un centre-ville, dans un appartement, ou vous êtes dans le périurbain, dans une maison avec deux voitures, vous n'avez pas du tout le même choc inflationniste. C'est pareil, le poids de cette énergie n'est pas le même quand vous êtes classe moyenne, classe modeste ou quand vous êtes plus riche, quoi. Donc la question, elle est macroéconomique et microéconomique, c'est-à-dire qu'il y a aussi derrière une question sociale, c'est-à-dire à la fois comment vous encaissez le choc d'inflation, comment l'État peut répondre à ça et quels sont les effets de second tour. C'est qui est protégé, qui n'est pas protégé. On voit les retraites vont augmenter, le SMIC augmente, mais par contre les salaires qui sont au-dessus du SMIC, on en a parlé tout à l'heure, malheureusement ne vont pas augmenter à la même vitesse, donc vous avez aussi un risque de tassement des salaires vers le bas.
Je peux faire une très brève provocation.
Moins d'une minute et après on marque une pause.
Quand
un peu plus près le micro, Philippe.
Quand le prix de l'essence monte, évidemment, selon que vous consommez beaucoup ou pas d'essence, vous êtes plus ou moins victime. Et donc, effectivement, aujourd'hui, les gens qui vivent dans des zones semi-rurales et qui ont des voitures et qui ont besoin d'avoir des voitures sont les plus concernés. Quand le prix de l'essence baisse, ça s'est vu, parce que là, tout le monde oublie toujours que tout est cyclique. Là, on est dans une période de hausse du prix des carburants. Enfin, il y a eu avant une période de baisse des carburants.
Ça fait 38 ans qu'il n'y a pas eu autant d'inflation.
Mais ça, c'est une autre question. Mais on parle de la question des carburants dont vous disiez vous-même qu'elle constitue l'essentiel de la question de l'inflation et qu'elle est au cœur de la question des inégalités en termes d'impact. Entre il y a 10 ans et il y a 5 ans, de tête, on a dû passer de 1,50 à 0,90 le litre de gazole. Ça monte et ça descend, ces trucs-là. À l'époque, on ne s'est pas dit, c'est quand même très très choquant, parce qu'il y a un bénéfice de pouvoir d'achat pour les semi-urbains très considérable, dont les Parisiens, les Lyonnais, les Marseillais qui n'ont pas de voiture ne bénéficient pas, c'est problématique. C'est normal qu'en fonction de votre structure de consommation, vous ayez parfois des avantages, parfois des inconvénients. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en occuper. Je dis simplement qu'il y a une asymétrie dans cette lecture. On est tout le temps en train de plaindre ceux qui souffrent et jamais en train de se dire qu'il y en a qui en bénéficient. On pourrait dire la même chose, par exemple, sur la protection qu'on a offerte aux cafés-restaurants pendant le Covid. Aujourd'hui, c'est la fête du slip dans ce secteur-là. Tant mieux pour eux, je suis très heureux pour eux. Mais il n'y a pas de clause de retour à meilleure fortune. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on est tout le temps en train de guérir les écrouelles, c'est normal qu'on finisse ruiné.
Certains établissements qui ont été aidés ont même avoué qu'ils avaient mieux vécu étant fermés.
Meilleure année ever pour certains.
On marque une pause. Dans un instant, cette question, la cécité des banquiers centraux sur l'inflation, est-ce qu'elle relève de l'imprévu ou alors est-ce qu'elle relève de la faute professionnelle ?
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Philippe Manière, président de Veille Solis Communication.
On peut changer.
Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Avant de se demander en quoi l'Italie est le paratonnerre de la France dans cette période de hausse de taux, comment vous avez vécu Sintra au Portugal avec une sorte de mea culpa généralisée de l'ensemble des banquiers centraux? On s'est trompé sur l'inflation, on n'a rien vu. Je disais hier, imaginez le médecin qui n'a pas vu que vous aviez un problème d'insuffisance respiratoire. Donc c'est de l'incompétence ou effectivement, je suis désolé, une pandémie, on ne peut pas tout prévoir. Et puis Poutine, et puis... Alors Philippe, allez-y.
Non mais oui, enfin moi honnêtement ça fait 18 mois que je suis venu un certain nombre de fois autour.
Ah bon, on pose la question depuis presque 2 ans.
Moi je suis frappé de voir que toute personne de bon sens, et je dirais à peu près toute personne qui a passé 7 ans, si on lui explique plus ou moins les mécanismes de l'inflation depuis 18 mois, 2 ans, peut prévoir que l'inflation va revenir. Tous les critères étaient cochés. Folie monétaire en termes de, liquidité surabondante, folie budgétaire dans une grande partie des pays, tension sur les chaînes d'approvisionnement, coût considérable de la transition énergétique. Enfin, je veux dire, une seule de ces raisons justifiait qu'on soit inquiet pour l'inflation. tout le monde le voyait, sauf les économistes spécialistes de l'inflation et les banquiers centraux en particulier. C'est tout de même un peu troublant. Donc effectivement, il y a un petit sujet, il y a un petit sujet de compétence. Moi, je suis pas complètement étonné parce que je pense que là aussi, la compétence s'est dégradée dans le temps. Moi, j'ai le plus grand respect pour Christine Lagarde, qui parle anglais comme personne, qui fait des opening jokes comme vraiment on en fait pas partout, qui a une capacité à envoyer à chacun le petit regard qui va bien, je t'ai repéré, toi t'es celui qui est intelligent dans la salle, les autres c'est des vats de la gueule. Ce truc, ce talent politique immense et de communication, c'est un atout pour un banquier central. C'est vrai. Simplement, permettez-moi de le rappeler que c'est pas le principal atout, c'est pas ce qu'on requiert principalement chez un banquier central. Or, elle n'avait pas de culture monétaire, elle avait à peine de culture économique, et moi, ça me fait rigoler.
Elle n'est pas seule, Philippe.
Non, mais pardon, quand on nomme à
Philippe
la tête...
Philippe Laine à la BCE, c'est pas une truffe.
Je vais prendre une métaphore. Vous avez un problème juridique grave. Vous savez pas comment vous en tirer. Vous êtes vraiment, vous peut-être aller en taule, ou payer une amende, ou un de vos proches va avoir un gros problème juridique. Est-ce que vous allez chercher un banquier central pour vous aider? Non, vous allez chercher un très bon avocat. Quand vous avez un problème monétaire très considérable, du type, on vit un truc très bizarre depuis 20 ans qu'on n'a pas connu depuis 100 ans. Est-ce que vous allez chercher pour diriger la Banque Centrale une avocate? Eh ben non, vous allez chercher quelqu'un qui a des connaissances en matière monétaire. On ne l'a pas fait, il ne faut pas être complètement étonné. Alors bien sûr, il y a un collège,
elle a dirigé le FMI,
était ministre des Finances. Ok, le FMI et ministre des Finances. Mais ministre des Finances, enfin rappelez-vous, à l'époque, elle était à l'agriculture, je l'aime bien. Elle était à l'agriculture, elle s'est retrouvée aux finances parce que Borloo avait dit des bêtises sur la TVA. Mais bien sûr que si, c'est de la technique. Moi, je veux bien que quand vous avez un problème de plomberie, vous c'est venir un médecin, mais c'est pas sérieux. Bon, voilà. Alors après, pardon, ils ont quand même une circonstance atténuante, j'en conviens. C'est-à-dire que entre les effets positifs, négatifs sur l'inflation, du ralentissement économique Covid et des tensions sur les circuits d'approvisionnement,
c'est pas elle qui fait les prévisions
d'inflation, c'était hyper compliqué. Oui, mais enfin, il y a quand même beaucoup de gens, comme vous savez, qui ont un peu plus ou moins quitté la BCE ou qui n'ont pas voulu continuer parce qu'ils n'étaient pas en ligne avec ce qui se faisait. Et le fait qu'elle ait sauté dans la mode verte en disant « moi, j'ai des responsabilités aussi sur ce sujet-là », et à mon avis, ça signe le crime définitivement. On ne peut pas avoir 50 mandats dans la vie, qu'elle fasse son boulot, que les banquiers centraux fassent leur boulot, ils ne l'ont pas fait. Et tout le monde va y revenir à l'inflation, sauf eux. Donc il y a quand même, à mon avis, un constat déjà.
Du coup, c'est quoi votre lecture pour les États-Unis?
Aux États-Unis,
les premiers mea culpa, c'est là-bas.
Là, on parle de Janet Yellen.
Non, mais c'est un peu moins catastrophique. D'abord, ils ont moins traîné à baisser les taux quand il le fallait.
Ils ont une inflation sous-jacente qui est plus robuste. Enfin bon.
Non, mais bien sûr. Mais sauf que l'inflation, ils sont pas simplement responsables. Simplement, à la réaction à l'inflation, la capacité à la voir et à réagir. Excusez-moi, on voit que la Banque centrale américaine est tout de même, de ce point de vue-là, un peu moins mauvaise que la Banque centrale européenne. La Fed a pas été parfaite. Et je suis prêt à critiquer aussi les responsables de la Fed. Tous les banquiers centraux ont raté, de ce point de vue, ils le disent eux-mêmes, mais qu'à la BCE, c'est spécialement raté. Je trouve le track record particulièrement pathétique.
Alors, Jean-Marc Vittori.
C'est trop facile.
Le procès.
Tout ce que dit Philippe. D'abord, juste pour l'histoire du médecin, le directeur de l'hôpital, il faut qu'il ait des compétences de management. Et je pense qu'en France, l'un des drames de l'hôpital en France, c'est qu'on a souvent à la tête des hôpitaux des gens qui n'ont pas assez de compétences en management. Je pense que Christine Lagarde a des compétences de management qui sont absolument indispensables pour ce qu'elle fait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a réussi. Parce que dans
mais elle a plein de compétences.
Oui, mais c'est absolument indispensable d'avoir ça. Bon, fermons cette parenthèse-là. Ensuite, sur l'histoire de l'inflation. Si vous regardez, il n'y a pas que Christine Lagarde qui n'a pas vu passer le truc.
Oui, je suis d'accord.
Il y a Joe Powell, il y a tous les meilleurs spécialistes d'économie monétaire, y compris les historiens, qui n'ont pas vu venir le truc. Donc vous ne pouvez pas dire il y a des gens qui savaient. Non. Donc, premier point. Deuxième point, je pense que c'est beaucoup trop facile de dire ça maintenant. Et je trouve d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de confrères.
Depuis deux ans, pardon.
Il y a un certain nombre de confrères, je pense, y compris dans la presse, les journalistes les plus réputés de la presse anglo-saxonne, qui ont fait le procès des banques centrales aujourd'hui. Tout ce qu'ils ont écrit aujourd'hui sur les banques centrales et sur les économistes qui disaient qu'il n'y a pas d'inflation, ils auraient pu l'écrire il y a 6 mois, il y a 12 mois, il y a 18 mois. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Et comme ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas de crédibilité. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Parce qu'il y avait assez, il y a 6 mois, et plus encore il y a 12 mois, et plus encore il y a 18 mois, il y avait des enjeux qu'on a complètement oubliés aujourd'hui et qui étaient absolument majeurs. On avait une crise sanitaire comme on n'en avait pas eu depuis un siècle. On a eu suite à ça des décisions d'arrêter l'économie qui ont des conséquences absolument colossales qu'il a fallu gérer avec du budgétaire, mais aussi avec des monétaires. Et je pense que lire aujourd'hui ce qui a été pensé il y a un an, sans se souvenir là où on était il y a un an, c'est trop facile. Et d'ailleurs, encore une fois, les spécialistes les plus reconnus de cette question-là n'avaient pas vu venir le truc. Et même s'ils l'avaient vu venir, quelle était l'alternative ? Alors aujourd'hui, vous allez dire, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Il y a 12 mois, il y a 18 mois, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Ça emmenait les économies dans des récessions bien plus profondes que ce qu'elles ont connues.
Et alors ? Le boulot d'un banquier central, c'est aussi d'assumer, de temps en temps, de ralentir l'économie pour éviter...
Pas ralentir l'économie. L'économie a chuté en France de 8%. Vous auriez voulu qu'elle chute de 15 ou 20%. Non. Ça me paraît criminel de dire ça.
Elle a chuté de 8% à raison de 2 mois d'arrêt et ensuite c'est remonté. Donc
oui,
après la sortie
de 8% sur une année.
Après la sortie, quand vous voyez que vous avez des problèmes de bottleneck et que vous avez des problèmes d'hyperliquidité,
c'est trop facile de dire ça maintenant.
J'ai dit moi-même c'était très complexe, Jean-Marc, mais en revanche, je ne pouvais pas me faire le procès de dire ça maintenant et de ne pas l'avoir dit avant. Franchement, tous ceux qui me suivent vaguement ici m'en sont témoins. Ça fait 2 ans et je ne suis pas le seul. Il n'y a que les spécialistes qui l'ont pas dit.
Non.
Le risque qui planait.
Il y avait un vrai risque.
En 2020 et début 2021, c'était la déflation, c'était pas l'inflation.
C'est vrai,
le problème, c'est qu'on était face à un choc extrêmement négatif, effectivement, avec un quoi qu'il en coûte mondial, et donc les banques centrales ont joué le jeu de faciliter le refinancement des États pour éviter aussi qu'on ait des défauts, hein, parce que d'ailleurs la question de l'Italie là, va se reposer. Et puis, effectivement, cette inflation, il y a eu ce pic d'inflation qui était lié à la reprise mondiale, avec des capacités de production qui avaient du mal à suivre. Mais effectivement, c'était vu comme des goulots d'étranglement pour 2 raisons. C'est que, effectivement, vous aviez une phase de réorganisation des chaînes de production mondiales. Mais à ça, c'est ajouté quand même Omicron, qui était quand même pas prévu. Enfin, je veux dire, il faut mettre ça aussi en perspective. C'est-à-dire qu'il fallait avoir une vision aussi de l'évolution sanitaire mondiale, de la stratégie zéro Covid de la Chine. Personne s'attendait à ce que la Chine referme des zones entières, notamment dans sa production industrielle, et reconfine des usines hyper importantes dans la livraison et l'approvisionnement de composants industriels, qui a quand même renforcé l'inflation. Et puis, bien sûr, la hausse des prix de l'énergie, on l'a vu dès la fin 2021, mais on pensait que c'était temporaire. Enfin, qui prévoyait un prix du baril ou du gaz durablement à ces niveaux-là ? Personne. Après, ça veut dire qu'il faut être capable de faire ces prévisions-là.
Oui, mais il y a une question structurelle, quand même.
Oui, mais non,
la relative démondialisation.
Non, mais
Jean-Marc l'a écrit souvent. La mondialisation,
ça fait combien de temps, la démondialisation ?
Ça a commencé avant les crises qu'on
était en train d'évoquer. Il n'y avait pas d'inflation. Il n'y avait pas d'inflation. On avait un autre problème. Ça fait 10 ans que même les banques centrales n'atteignaient pas leurs objectifs d'inflation. Et donc, ça fait 10 ans qu'il y a des taux bas et que du coup, on arrose de liquidités, que ça augmente les actifs, mais ça n'augmentait pas l'inflation. C'était bien le problème, c'est qu'on avait une déconnexion entre prix des actifs et cette inflation.
Leur boulot, c'est d'anticiper que ça
arrive. Effectivement, choc Covid, reprise forte, plus les désorganisations des chaînes de production mondiales, avec en plus la stratégie zéro Covid. La guerre en Ukraine change totalement les choses. Et qu'on est effectivement dans cet épisode-là de dire, est-ce que cette inflation est durable ? Quels vont être les effets de second tour ? Est-ce que le prix de l'énergie, qui est capable de dire quel va être le prix du pétrole à fin 2023 ? Eh ben, si vous me dites,
tout le monde se plante toujours
dans
la prévision du baril.
Si on dit qu'on ne sait pas, on ne fait pas le boulot.
On peut faire des variantes.
Ça ne va pas.
On peut faire des variantes, mais vous êtes obligé de faire de la probabilité sur le scénario le plus standard. C'est celui qu'on connaît, en gros. C'est de dire, vous avez un réculage. Comment vous gérez ces tensions géopolitiques ? Comment vous gérez la guerre en Ukraine dans des prévisions d'inflation ? Donc, effectivement, les modèles, ils ne vont pas vous dire des choses assez extraordinaires. Ça dépend de vos hypothèses qui sont.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 25 ou 30 ans, après l'arrosage auquel on avait procédé, et dont on peut comprendre qu'il soit opportun, on peut discuter le quantum, très probablement, les banquiers centraux de l'époque auraient plus rapidement et avec moins d'hésitation repris de la liquidité, comme on dit.
Je crois que c'est trop facile à dire maintenant.
Je dis simplement, il me semble que le mindset des banquiers centraux de l'époque aurait été probablement plus compatible avec un retour vers un resserrement de la politique monétaire plus rapide. Là, si vous voulez, il me semble qu'on est rentré dans une période où il y a trop de considérations qui sont intégrées dans le processus de décision. Vous avez un mandat. Le mandat, c'est d'éviter l'inflation. Effectivement, pendant un temps, il y avait un risque de déflation qui était gravissime. Très vite, on s'est rendu compte ensuite que c'était plus le sujet. Et il me semble que les banquiers
ont tardé. Alors, il y a eu un effet de surprise qui sont quand même liés à la guerre en Ukraine, quand même. Je veux dire qu'il y avait prévu la guerre en Ukraine.
Augustin Landier disait il y a 2 jours qu'on commençait à avoir des signaux de possibles tensions avec la Russie et l'Ukraine dès le début du mois de janvier.
On peut réécrire l'histoire. J'ai l'impression que moi, je n'ai pas entendu beaucoup de gens dire effectivement, on va être un épisode inflationniste, qu'il y aura la guerre. Mais bon. Et alors, pour ajouter une chose sur la Banque Centrale Européenne, en plus, dans son mandat, la difficulté, c'est qu'elle va avoir une politique monétaire pour 19 pays. ce qui n'est pas le cas des États-Unis. Et un de ses rôles, et qui devient très compliqué, c'est d'éviter une fragmentation au sein de la zone euro. Et on parlait de la question de l'Italie, qui est quand même une question assez complexe. C'est-à-dire, avec cette remontée des taux, effectivement, les pays les plus fragiles sont exposés tout de suite au risque de défaut.
Vous voyez bien que c'est le problème du coup, monde à multiples.
Elle n'a pas juste, au fond, elle ne peut plus s'occuper que de l'inflation. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas juste dire. Eh oui, alors le problème, c'est qu'on risque d'avoir la fin de l'euro.
Si vous n'avez personne qui est en charge de l'inflation et que de l'inflation, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, personne ne s'occupe de l'inflation. Voilà. Pourquoi on a fait des banques centrales ? Pourquoi on a fait des banques centrales indépendantes ?
Elles restent indépendantes.
C'était pour qu'elles puissent prendre en charge quelque chose que les politiques ne prennent pas en charge naturellement parce qu'ils n'ont aucune incitation à le faire. C'est la question du dosage de la politique monétaire et en particulier éviter les folies et l'inflation. À partir du moment où elles se sentent investies de sauver la planète, d'éviter la fragmentation de la zone euro, de sauver le scarabée à crête mordorée, etc.
Et aussi de
préserver la communauté européenne, la communauté des États.
Parce que si l'Italie fait défaut, c'est la fin de
l'inflation. Elles ne peuvent pas atteindre tous les objectifs à la fois. Donc moi, je pense qu'il faudrait revenir à quel est l'objectif d'une banque centrale. Là, sur cet objectif, qui est l'objectif historique et principal à mes yeux, il y a un échec. Et moi, je pense que c'est pour partie parce qu'on poursuit plusieurs objectifs qu'on ne peut pas tous atteindre en même temps.
Mais la grande leçon sur ce plan-là de ce qu'on a vécu depuis 2 ans, c'est que la Banque centrale ne peut pas avoir un seul objectif.
Exactement.
Elle ne peut pas. Si vous regardez, si la Banque centrale a un seul objectif, même dans un système qui n'est pas bancal, comme le système européen, puisqu'on a une unité monétaire, mais pas d'unité budgétaire, donc on a un système qui est bancal.
Bancal, absolument.
Voilà, bon. Même si on n'a pas un système bancal, quand il y a une situation comme celle qu'on a connue avec l'épidémie, il faut qu'il y ait des moyens budgétaires colossaux qui soient mobilisés. Et s'il n'y a pas de soutien monétaire, si la Banque centrale dit « Ah non, moi je ne m'occupe que de l'inflation, donc je n'ai pas à agir », ça ne marche pas. Donc, pour moi, là, l'une des grandes leçons de ce qui s'est passé depuis 2 ans, et on avait eu déjà des doutes à partir de la crise financière de 2008, où on s'est rendu compte que si les banques centrales ne s'occupaient pas aussi de stabilité financière, on avait comme un problème. La grande leçon, c'est que la banque centrale ne peut pas avoir un seul objectif, quels que soient les regrets qu'on puisse avoir sur le sujet.
Juste un petit point, et cette inflation aujourd'hui, elle n'est pas simple à gérer. Ce n'est pas sûr que la remontée des taux d'intérêt va la réduire.
En plus.
Parce que si vous avez un problème sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, ou lié au prix du pétrole, vous pouvez monter les taux d'intérêt, ça ne changera pas grand-chose à l'inflation. Donc, ça peut limiter un peu les effets de second tour.
Mais
vaut mieux avoir des méthodes qui sont de pas d'indexation complète, jouer plutôt sur les effets de second tour directement au niveau des États. La Banque centrale, ça va surtout, avec les dettes qu'il y a, si vous remontez les taux, avoir un nouveau choc sur le coût du financement et notamment les charges d'intérêt et le problème des entreprises, y compris sur leur refinancement.
Ça revient à écraser une mouche avec un marteau, une mouche qui est posée sur un carreau.
Ouais.
C'est à peu près ça.
On ne sait pas à quoi
ressemble.
Donc du coup, on laisse l'inflation galoper parce que c'est trop embêtant.
Non, Philippe, ça finira pas bien.
Il y a un mandat quand même.
Il est possible que ça finisse pas bien. On sait qu'on met 25 points de base en juillet et très probablement 50 points de base. Et on ne connaît pas la tête de l'outil antifragmentation.
C'est modérément violent.
Car évidemment, les taux remontent et vous écriviez cette semaine dans les Échos, Jean-Marc Vittori, heureusement que l'Italie est là car elle nous protège.
Oui.
Et je pense que je suis de votre avis. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Parce que moi, maintenant, c'est combien de temps elle nous protège ?
Ça a l'air, par chance pour nous, et peut-être par malchance pour la zone euro, ça peut durer visiblement assez longtemps. Ce qui se passe, c'est que les investisseurs, quand ils enlèvent de l'argent quelque part, il faut qu'ils le mettent ailleurs. Il faut qu'ils puissent le justifier auprès de leur clients. Aujourd'hui, si les investisseurs veulent quitter la France, s'ils veulent vendre les obligations d'État française, il faut qu'ils puissent acheter autre chose qui ressemble à peu près à être justifiée. S'ils changent de classe d'actifs, c'est très compliqué. Et donc, quand vous êtes investisseur, vous dites « je vends massivement des milliards d'obligations françaises, qu'est-ce que j'achète à la place ?» Je vais pas acheter de l'Allemagne parce que l'Allemagne c'est trop cher, les taux.
Et puis, il y en a pas beaucoup.
Si vous regardez dans les chiffres de la BRI, si on arrondit à la centaine de milliards, l'Allemagne c'est 2300 milliards de dettes, la France c'est 2800. Enfin, ça c'était les chiffres fin 2021. Depuis, c'est un petit peu augmenté. Et donc il faut avoir un gisement intéressant. L'Espagne, c'est trop petit, c'est 1400 milliards. Ces Espagnols, ils sont pas assez endettés. Donc, si un investisseur veut pouvoir basculer massivement, il faut qu'il ait autre chose. Et tant qu'il ne le fait pas, il garde ses titres. Et c'est ce qui se passe pour la France actuellement. Le seul autre pays qui pourrait être intéressant, c'est l'Italie. L'Italie est à 2500 milliards. Il y a de quoi acheter. Et le problème, c'est que l'Italie, et l'avantage pour la France. Le problème, c'est que l'Italie, bah, elle a une croissance qui est nulle depuis 20 ans.
Tout est pourri.
Voilà. Zéro gain de productivité.
C'est rare.
Et alors que la France, bah, elle a même fait un peu plus d'un pour cent de croissance. Donc, on sait que la croissance, ça lui gagnera un peu d'argent, qui peut servir notamment à rembourser. Et donc, avec une Italie qui aurait fait les réformes structurelles, dont on sait qu'il faut qu'elle fasse, excusez-moi pour ceux qui considèrent que le mot réforme structurelle est un gros mot, qu'on travaille sur l'éducation, sur l'investissement, sur les infrastructures, sur les endroits où il n'y a pas assez de concurrence, enfin, la feuille de route est parfaitement connue. À ce moment-là, l'Italie pourrait changer sans doute assez rapidement, enfin en 5 à 10 ans, et les investisseurs se dire « Ah, on peut vendre la France pour un truc qui est mieux. »
Oui.
Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Oui. Merci Mario Draghi, merci l'Italie.
CMA-CGM.
Non, mais on peut.
Ah, alors allez-y.
C'est important.
Allez-y. Bah,
sujet, hein.
Bien sûr que c'est important.
Je sais qu'il y en a beaucoup. Mais ça, c'est un point essentiel, hein, parce que ça va être la grande question, à mon avis, de cette... de ce moment, hein, de cette phase dont on parlait avec l'inflation, la remontée des taux d'intérêt, et quels sont les pays qui vont être les plus exposés, notamment face au marché et aux investisseurs. Et c'est vrai que dans la hiérarchie des pays, l'Italie est quand même mal placée, très mal placée. Alors la France est entre l'Italie et l'Allemagne, on va dire. Mais l'Italie, elle a quand même 150% de dette publique rapportée à son PIB. Hein. Nous, on est autour de 110.
Les excédents primaires, fait son...
Le taux d'intérêt aujourd'hui est proche de 4 points, hein, quand même, alors que je crois que celui de l'Allemagne est autour de 1,5, quelque chose comme ça. Donc,
on est à 2,10, nous, au fond.
Donc il y a 2 points de plus, donc il faut savoir que 2 points de taux d'intérêt en plus, ça fait une charge d'intérêt qui est quand même colossale. Que l'Italie, sa soutenabilité dépend effectivement de l'écart entre sa croissance et le taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt passe au-dessus de la croissance, vous avez ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Ouais. La charge d'intérêt augmente plus vite que les recettes
cata,
fiscales.
C'est cata. C'est ça, donc, la cote d'alerte.
La cote d'alerte, c'est ça. Là. Et c'est comme ça qu'en 2012, le fameux whatever it takes, oui, le quoi qu'il en coûte de l'époque, Mario Draghi, justement, met en place des instruments financiers spécifiques pour faire baisser les taux, parce qu'on était face à un possible défaut. C'est-à-dire que c'est pas tenable. Si vos taux d'intérêt augmentent plus vite que votre croissance, vous êtes là. Or, la croissance potentielle de l'Italie, C'est zéro, ou presque zéro. Pourquoi ? Productivité, et ça, il n'y a aucun pays comme ça, gains de productivité, ils sont quasiment nuls depuis 20 ans. Alors peut-être que ça va s'améliorer, il y a eu des réformes qui ont été mises en place, ça prend du temps. Il y a aussi le fait que c'est un pays qui est extrêmement éclaté entre le Nord et le Sud, premièrement, et ils ont un vieillissement qui est très fort. Qui est beaucoup plus fort que la France. Donc si vous prenez les effets démographiques plus cette productivité, croissance zéro. Si vous avez une croissance zéro avec des taux qui sont 4 ou 5, vous avez un gros problème qui est comment vous faites pour rendre soutenable votre dette. Donc Christine Lagarde a implicitement, dans son mandat, de sauver aussi la zone euro. Mais comment faire la zone euro si l'Italie fait défaut ? Et l'Italie fait défaut, c'est la fin de l'euro. Donc, c'est l'enjeu qui est majeur.
Elle interviendra quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, whatever it takes.
Alors, la question, c'est que les Italiens, ils n'ont pas envie d'être aidés en contrepartie de mesures spécifiques comme on a connu en 2012-2013, c'est-à-dire des politiques d'austérité qu'on impose sur certaines choses. Bon, là, il se trouve que c'est Draghi, qui peut avoir aussi des conséquences politiques après, sur dire, bon, bah, basta, on sort de l'euro, on fait un référendum et tout ça. Donc, je veux dire, c'est quand même une ligne de crête qui est extrêmement, extrêmement fine, extrêmement mince pour les banquiers centraux, parce qu'ils ont quand même, malgré tout, cette responsabilité, même si c'est pas leur faute, si l'Italie aujourd'hui se retrouve dans cette situation. Mais de fait, la zone euro a été construite comme ça.
Non, mais juste un tout petit mot
sur
l'Italie nous protège. La France est très souvent protégée. Vous savez, c'est le mauvais élève qui est, en fait, pas trop mal vis-à-vis du prof, parce qu'il y en a un qui est assis encore derrière lui et qui est encore plus mauvais. C'est pas glorieux. On a été protégé par la Grèce qui était derrière nous. Maintenant, c'est l'Italie qui est derrière nous. Enfin, moi, j'aimerais quand même mieux pour mon pays qu'on soit protégé par nos performances, qu'on soit protégé par les mesures qu'on prend pour redresser. Et pas simplement parce qu'il y a toujours derrière nous un type qui pue un peu plus de la gueule que nous. C'est quand même pas génial. Quoi,
c'est l'histoire du lion.
Oui, c'est l'histoire du lion.
C'est le gars qui est poursuivi par le lion. Et pourquoi tu crois que tu vas courir plus vite que le lion? Et l'autre, tu dis non, je crois que je vais courir plus vite que toi. C'est toi que le lion.
Alors, c'est la réalité de la finance mondiale aussi. Hein, oui, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie, les investisseurs, quand il y a un flight to quality, vont
bien
prendre
sûr,
là où
évidemment,
effectivement c'est moins les plus sécurisés, comme l'Allemagne ne peut pas capter l'ensemble de l'épargne mondiale, et ben après vous allez hiérarchiser. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas être le dernier de la classe.
Pourriez-vous demander aux intervenants, écrit Alexis, une estimation de l'inflation en fin d'année. Moi, je sais que la Banque de France nous a dit 7% en septembre. Je ne sais pas si vous avez un chiffre en tête. L'estimation d'inflation en France.
Je crois que l'INSEE était aussi dans, ouais, dans ces eaux-là. Il était un peu plus élevé, mais je crois que je me demande si on n'atteignait pas 7,5.
C'est votre métier, hein, Mathieu.
Mais nous, on a fait une prévision. oui, c'est notre métier, exactement. Mais on parle de la Banque de France et de l'INSEE. Nous, on était à 6,5. Mais en fin d'année, avec un prix du pétrole qui était un peu moins élevé que ce qu'il y a aujourd'hui.
Sur un an, ça fera du. Enfin, sur l'année 2022,
ça fait un peu plus de 5, mais elle est quasiment jouée, hein, ouais, quand même, l'année. Hein.
Bon. CMA-CGM fait un geste commercial après Total. Total a décidé d'ajouter 12 centimes de ristourne par litre de carburant vendu dans ses stations d'autoroute, qui s'ajoute aux 18 centimes accordés par l'État. Ce qui veut dire que sur un plein de 50 litres, on économise 15 euros. CMA-CGM décide d'accorder une ristourne de 500 euros par conteneur de 40 pieds aux grandes enseignes qui importent des produits depuis le bout du monde jusqu'en France. Ça peut être Carrefour, ça peut être Decathlon. Et donc, je le disais, c'est à peu près environ une ristourne de 5% sur un coût de transport qui représente 5% du prix du produit final. Emmanuel Le Chypre s'est donc livré à une petite estimation, considérant que sur une paire de baskets à 50 euros, ça faisait 50 centimes d'économie. Si l'enseigne répercute intégralement la ristourne accordée par le transporteur. Sur cette histoire de... On voit bien ce qu'ils veulent faire. Éviter qu'on aille jusqu'à une éventuelle taxation de leurs profits considérés comme particulièrement importants en raison de leur talent, en raison du prix du baril pour l'un, c'est Total Energy, en raison du prix du transport maritime pour l'autre, c'est CMA, CGM. Donc c'est pas une extraordinaire stratégie incroyable qui justifie ce qui pourrait aujourd'hui s'apparenter à une forme de rente. Taxer une entreprise qui fait 9 milliards en 3 mois, là où normalement elle a l'habitude d'en faire 3.
Non mais
pas, Philippe Manière.
Moi je crois à l'économie de marché, donc si vous voulez, il y a le prix des inputs et puis il y a la capacité à résister à la concurrence, à s'organiser pour y faire face. Je ne sais pas, je n'ai pas étudié le marché, s'il y a suffisamment de concurrence en matière de transport. Je crois comprendre que c'est un oligopole. Donc,
ils ne sont pas nombreux.
Je pense qu'en termes de politique publique, c'est quand même plus intéressant de se pencher sur cette problématique-là que de faire des taxes exceptionnelles à raison d'une symbolique de chiffres. Je veux dire, si c'est CGM gagne très bien sa vie.
Les Anglais l'ont mis en place.
Parce qu'ils travaillent très bien, ce qui je crois est le cas, tant mieux pour eux. Si effectivement on pense qu'il n'y a pas suffisamment de concurrence, il faut faire quelque chose pour qu'il y ait de la concurrence. Ça, à mon avis, c'est l'un des ultimes territoires de légitimité de l'intervention des pouvoirs publics dans l'économie. C'est s'assurer qu'il y a de la concurrence. Sur l'essence, pardon, mais ça me fait toujours rigoler parce qu'on met on fait porter le chapeau à Total. En France, c'est un marché un peu particulier, mais l'essentiel de l'essence est vendu évidemment dans les grandes surfaces, comme chacun sait. C'est-à-dire que le prix de Total ne dépend pas de la volonté de Total. Il y a une concurrence absolument effrénée. La raison pour laquelle l'essence vaut cher, c'est que, un, le prix du baril a monté, et que, deux, c'est absolument blindé de taxes, le prix du pétrole. Donc,
300% de taxes.
C'est quand même très, très bizarre d'avoir cette structure de prix. Vous avez un prix de base dont personne ne comptait ce qu'il augmente, parce que le pétrole a augmenté, enfin, l'énergie a augmenté, de la taxe comme s'il en pleuvait, et puis à la fin, un profit qui ne doit pas être considérable en proportion, parce que c'est comme ça et qu'il y a de la concurrence. Puis à la fin, on dit, bah oui, mais on va quand même reprendre de l'argent. Alors, c'est la distribution.
C'est vrai que, par exemple,
il y a des marges.
Le distributeur dit toujours qu'il gagne 2 centimes par litre. Hein, le distributeur.
Oui, bien sûr.
Ah, le distributeur, voilà. pas la raffinerie.
Par rapport à ce débat, et peut-être aussi la stratégie de déminage avec ces gestes commerciaux qui est utilisée par ces entreprises. Alors, allez-y, Mathieu, on a 2 minutes 40.
Ouais. Hein. Non, alors, c'est intéressant parce que, effectivement, dans le fret maritime, il y a une forme d'oligopole. Hein. C'est des grosses, très grosses compagnies. Donc, c'est vrai que la concurrence, elle n'est pas immédiate parce que construire des bateaux, les mettre en place, vous ne réagissez pas tout de suite. Surtout si, dans 2 ans, les prix retombent, il est possible que ce ne soit pas très rentable. L'avantage, j'allais dire, c'est que on est très fort dans ce secteur. Pour une fois, ça nous bénéficie aussi à nous. C'est-à-dire que c'est une des plus grosses compagnies au monde. Et d'ailleurs, ça se voit, on en a discuté tout à l'heure, dans la balance courante. C'est-à-dire que là où on perd beaucoup en déficit commercial, on est très excédentaire dans les services, et notamment grâce... Alors, il y a les services financiers, mais il y a aussi le transport. Il y a un peu de tourisme. Et donc, du coup, ça se voit là-dessus. Ça, c'est plutôt un bon point. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas redistribuer une partie des gains. Mais après, il y a aussi autre chose. Hein, sur la taxe des super-profits, il faut savoir que c'est des multinationales qui réalisent leur chiffre d'affaires, leur profit dans le monde.
Ah oui. Total,
ils sont 25% de leur chiffre d'affaires en France, donc 75% c'est là. Donc si vous taxez les super-profits, c'est les super-profits réalisés en France, et certainement, ils ne sont pas du tout de 15 milliards, parce qu'ils sont aussi beaucoup réalisés partout. Donc ils sont consolidés en France, et il faut faire attention à ça.
Jean-Marc, par rapport à cette histoire,
Là, je crois que sur un plan théorique, la question se pose de manière tout à fait légitime.
Théorique.
Oui. Pourquoi parce qu'il y a surprofit exceptionnel qui vient d'un effet de rente et que.
Si il y a un effet de rente.
Ouais.
Si c'est un effet de rente.
On vient de l'évoquer pour ça.
Quand tu as un baril à 120 qui tire tes profits à la hausse,
c'est. Et les profits de Total reflètent aussi au moins en partie un effet de rente sur cette année. Donc, moi je pense que sur un plan théorique, la question est tout à fait légitime. Olivier Blanchard, qui n'est pas un gauchiste effroyable, l'a dit. Ensuite, c'est très compliqué à appliquer. Pour les grandes entreprises, mais on pourrait. Il y a plein de gens qui ont fait des surprofits. Oui. J'ai vu que le nombre de consultations de psychologues a doublé depuis 2 ans.
Et les pharmacies.
Les laboratoires d'analyse. Pourquoi on ne parle jamais des laboratoires d'analyse? Leur chiffre d'affaires a explosé et leur profit avec. Alors ça. Silence radio là-dessus, hein. Télé même aussi. Donc voilà, si on pose la question, il ne faut pas la poser seulement pour une ou deux grandes entreprises, il faut la poser pour un certain nombre de gens qui ont largement profité de la situation, et il y en a.
Golding m'écrit, arrêtez de dire que Total profite d'une rente. En 2020, le baril était entre 20 et 30 dollars, c'est vrai qu'il y a des moments...
Les profits, c'est pas 2020, c'est 2021, et ça fait 2022.
Du coup, ça permet de mettre la pression, ils font un geste, hein, je crois qu'ils baissent de 10 centimes.
Dans 12 sur les autoroutes.
Faut aller sur l'autoroute pour faire le plein, c'est un peu curieux.
Merci Philippe Panière, Mathieu Plane, Jean-Marc Vittori. Rendez-vous lundi à 9h.